Pascal Sivi.
Boulevard 102.1.
C'est 26 degrés sur Québec pour aujourd'hui. Ce sera ensoleillé. Une super de belle journée. Par contre, à certains endroits, avec le facteur humidex, ça pourrait monter jusqu'à 38 degrés. Demain, samedi, du soleil. Une alternance de soleil-nuage en fin de journée. Un ciel dégagé en soirée, minimum de 17. Dimanche, ce sera ensoleillé avec un maximum de 32 degrés. Lundi, ensoleillé, maximum de 33. Donc, pour tous ceux qui aiment le beau temps, on est gâtés ces temps-ci, puis pas à peu près. Sur la route, Pascal, c'est important de vous dire que s'il se passe quoi que ce soit, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Il y avait des camions qui étaient en panne. Est-ce que ça s'est... est-ce qu'on a réussi à le tasser de là?
On est encore là-dedans, Yannick, oui? Sur Laurentienne Nord, hauteur rue Georges-Mur. En fait, c'est la voie de droite qui est partiellement entravée, véhicule lourd en panne. Et la SQ est là, sauf que c'est long à tasser un véhicule lourd.
Merci beaucoup. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, candidat comme député dans le secteur d'Arthabasca. Salut!
Bonjour!
Premier débat télévisé hier, à moins que je me trompe, là, mais vous aviez un débat télévisé hier sur les ondes d'LCN.
Oui.
Je vous félicite, vous avez pour la plupart tous bien paru, mais selon Québécois, Alex Boissonneau en a mangé une sincère.
C'est pas moi qui le dis, mais c'est vrai que ça a commencé bizarre. Il a commencé en nous disant qu'il était le candidat de la CAQ. Il a fait un lapsus qui est assez révélateur pour la suite des choses. Et je pense que c'est surtout sur l'enjeu là, ben de la taxe carbone aussi, ça a brassé un peu, mais sur l'enjeu de la souveraineté, il a carrément contredit son chef. Là, il a dit, je cite, là, il y a une discussion à avoir sur le référendum sur la souveraineté, parce que je demandais s'il était d'accord d'avoir un référendum comme ça le propose Paul Saint-Pierre Plamondon dès l'élection d'un gouvernement du Parti québécois. Lui pense qu'il y a encore des discussions à y avoir, là, puis qu'il y a besoin, il y a possibilité de retarder ça.
Ouais.
Je pense que c'est une question qui est importante. Là. Le PQ essaie de se donner un momentum avec l'élection partielle dans Tabasco. On a besoin de savoir est-ce que oui ou non, c'est parce qu'ils veulent précipiter le Québec dans un référendum d'ici 2 ans. Paul Saint-Pierre Plamondon dit oui. Son candidat dans Arthabasca laisse entendre que non. Il en reste 48 heures là, pour nous dire qu'il vivrait.
Ben, je sais pas comment ça s'est passé aujourd'hui entre les deux, mais certainement qu'ils ont dû aborder ça. Éric, est-ce que c'est intentionnel de leur part de tenter de mêler les électeurs dans le dossier de la taxe carbone? Bon, au Québec, on a une bourse carbone. Au Canada, on avait la taxe carbone. Et à chaque fois, Alex Boissonneau revenait pour dire, ben là, Éric Duhaime, c'est pas, on n'a pas de taxe carbone au Québec. On n'a pas de taxe carbone. Vous mélangez les choses. Puis là, t'as dû intervenir, mais il y a certainement une stratégie pour essayer de mêler les gens.
Ouais.
Parce qu'un agriculteur, sur un an, cette fameuse bourse du carbone, ça coûte à peu près 10 000 par année.
Exact.
Puis au litre, au Québec, c'est à peu près 10 cents qu'on paye pour cette bourse carbone-là. On en a une taxe carbone, c'est juste que le PQ joue avec les mots, et ça, je trouve ça particulier comme stratégie.
Mais oui, hier, j'y ai dit, tu peux appeler ça une chèvre si tu veux, mais le gars qui nous écoute, là, au moment où on se parle, il y a un écart de 20 à 25 sous entre le Québec puis l'Ontario. Puis c'est pas parce que les pétrolières mettent plus d'argent dans leur poche, contrairement à ce que pense Paul Saint-Pierre Plamondon. La raison pour qu'on paye plus cher au Québec, c'est parce que le gouvernement est plus gourmand. En Ontario, ils ont réduit la taxe provinciale sur les carburants à 9,2 sous. Nous, au Québec, c'est 19,2 sous. OK? On paye 10 cents de plus pour la taxe provinciale sur les carburants. Doug Ford a délibérément suspendu une partie de la taxe depuis déjà plusieurs mois. Puis ils ont aussi aboli au Canada anglais la taxe carbone, qui représente à peu près un autre 10 cents. Si tu additionnes ces deux taxes-là, puis tu t'ajoutes la TPS et la TVQ, ça explique exactement l'écart des prix entre le prix du litre moyen au Québec puis le prix du litre moyen en Ontario. Donc, appelez ça des taxes, appelez ça des frais, appelez ça des éco-frais, appelez ça des contributions obligatoires, appelez ça une dîme à la religion verte, si vous voulez. Mais à la fin de la journée, c'est les gens à la pompe qui payent plus parce que le gouvernement les siphonne plus au Québec. Puis, ils veulent jouer avec les mots pour essayer de vous endormir. Vous dites non, c'est pas vrai qu'on paye de la taxe carbone. Vous payez une taxe carbone. C'est une taxe. Je veux dire, on va chercher de l'argent dans votre portefeuille quand vous allez à chaque litre d'essence de plus que vous achetez. Fait que c'est un peu bizarre que le PQ joue à ce jeu-là, là. Ils gagneront pas. Je veux dire, il y a pas personne qui m'a écrit ou qui m'a texté, là, pour me dire, oh mon Dieu, que le PQ a raison, ça existe pas, la taxe carbone, là.
Mais moi, c'est le fait qu'il, joue avec les mots en sachant très bien que le Québécois paye pour cette taxe carbone-là. Nous autres, c'est une bourse carbone, mais il joue avec les mots et ça m'agace. Est-ce que vous en avez assez fait dans les débats, que ce soit des débats sur Internet, à la radio ou à la télé, pour les gens d'Arthabasca? Parce qu'on a parlé beaucoup de sujets qui étaient provinciaux, mais concrètement, les gens d'Arthabasca, ce qu'ils veulent, c'est un député qui les représente. Là. Ils veulent pas nécessairement parler de dossiers provinciaux. Là.
Non, mais la taxe carbone, ça concerne beaucoup les gens d'Arthabasca, parce que tu l'as dit tantôt, les agriculteurs sont ceux qui sont les plus touchés. En UPA estime que ça leur coûte 10 000 piastres chaque en moyenne, la taxe carbone, alors que leurs concurrents en Ontario ne payent pas de cent. Je pense que ça, c'est un exemple où c'est très, très, ça touche beaucoup la circonscription. C'est une circonscription très rurale. On a parlé beaucoup aussi en santé de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, parce que ici aussi, on a un hôpital qui est très vétuste, un peu comme Maisonneuve-Rosemont à Montréal, mais les médias nationaux en ont moins parlé. Le gouvernement avait promis des modernisations puis un agrandissement. Ils ont commencé les travaux, ils ont arrêté les travaux. Là, quand l'élection partielle a été déclenchée, ils ont recommencé les travaux. Il faut s'assurer que les travaux vont continuer le lendemain de l'élection, après lundi prochain. Puis il faut s'assurer aussi que le cinquième étage qui a été fermé parce qu'ils n'ont plus de personnel, réouvre. Donc ça, c'est un enjeu très, très local, là. Et je pense que ça a beaucoup aussi intéressé les gens. Après ça, il y a la crise du logement. À Victo, ils vivent ça de plein fouet parce que c'est une des villes au Canada où le prix des maisons a le plus augmenté.
À Victoriaville, dans quel contexte? Es-tu un contexte travailleur?
C'est pas compliqué, c'est qu'il y a 3 à 4 fois plus de nouveaux résidents que de maisons qui se construisent.
C'est des nouveaux arrivants, c'est ça,
là,
qu'on envoie?
C'est là, c'est la demande. Ben, c'est les deux. C'est des nouveaux arrivants, mais c'est aussi des gens qui déménagent dans la région. C'est quand même une région très entrepreneuriale où il y a beaucoup de possibilités. Depuis la pandémie aussi, il y a beaucoup de gens qui ont fui les grands centres et qui s'établissent plus dans des villes comme Victoriaville. Là, c'est des capitales plus régionales. Donc, ça a eu un impact. Ça a fait une pression sur le prix des logements, ce qui fait que les jeunes ici, comme dans bien d'autres villes au Québec, là, ont plus les moyens de s'acheter une maison. C'est le prix moyen d'une maison à Victo, ça doit être rendu pas loin de 400 000 $. Mais quand tu as 25 ans, là, tu veux te marier, tu as des enfants, là, 400 000 $, c'est inabordable. Ouais. Donc, c'est une réalité qui choque et qui frappe tout le monde. Fait que c'est un autre exemple d'enjeux locaux. Mais Yannick, tu as raison, là, il y a eu beaucoup de débats nationaux, mais ça les concerne aussi. Je veux dire, tous les autres enjeux, là, tu sais, je vais parler, par exemple, de la vente d'auto à essence, là, qui veulent interdire le PQ en 2030, la CAQ en 2035. Ben, j'ai rencontré tous les concessionnaires auto ici à Victo puis à Plessisville, puis je peux vous dire que ils sont tous d'accord avec nous que ça n'a pas de sens puis qu'ils vont être obligés d'imposer des pénalités à leurs clients si le gouvernement recule pas sur cette promesse farfelue, là. Donc, il y a des enjeux nationaux qu'on est capable de décliner au plan local.
Le chroniqueur Francis Gosselin, qui est un économiste, qui est embauché pour l'été au 99.5, a eu des propos qui étaient assez particuliers à ton égard. Il reprochait tes campagnes avec des slogans, entre autres « Mon char, mon choix ». Qu'est-ce qui fait en sorte que certains chroniqueurs tombent en aversion?
Bien, je pense que ça fait longtemps que ces gens-là ne sont pas venus dans des régions comme celle où je me trouve présentement, là, puis... Tu sais, je veux dire, mon char, mon choix, là, dans une région, là, c'est tout à fait normal. Je veux dire, ici, là, il n'y a pas de station de métro, il n'y a même pas de transport en commun. Les gens habitent dans des rangs. La voiture, c'est une nécessité, c'est pas un luxe. Des chars électriques à 82, 83 000 $ en moyenne, c'est pas abordable. C'est pas quelque chose qu'ils peuvent se payer. Donc, la réalité de ces gens-là semble bien différente de celle des chroniqueurs qui habitent sur le plateau Mont-Royal, là. Et donc, moi, je pense qu'ils vivent juste pas dans le même monde que nous. Et leurs commentaires reflètent l'opinion de gens qui vivent dans une bulle sur une île loin d'ici. Là.
Par contre, Éric, moi, j'en ai déjà parlé avec toi en ondes, là.
Oui.
Je comprends le côté marketing de ces slogans-là, mais moi, je me demande si... Parce que le débat est super important. Peu importe qui est en onde avec nous, avec Yannick, je suis capable de l'affirmer, le débat est super important. Ça va trop vite. On avait mis des dates impossibles. On a fait semblant qu'on y croyait du côté de la CAQ. C'était, pour moi, une belle pièce de théâtre d'été à l'île d'Orléans sur des planchers de bois, là. Mais le slogan, je pense, peut nuire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. C'est très marketing.
Si j'avais pas utilisé ce slogan-là, là, probablement que vous n'en auriez pas entendu parler.
Je le comprends, c'est un problème médiatique aussi.
Ce slogan-là, rappelez-vous là, que ce slogan-là, il s'est ramassé dans la revue de fin d'année d'Infoman. Oui. Il s'est ramassé au Bye Bye, OK? Si j'avais pas utilisé ça, ma conférence de presse, quand j'ai parlé de ça, vous n'en auriez jamais entendu parler.
Fait que toi, tu fais le pari que de la caricature qui parfois t'est étiquetée, à tort ou à raison.
Mon char, mon choix, c'est pas une caricature, là. C'est qu'on veut choisir le char qu'on veut. Si on veut un char à essence, hybride ou électrique, on veut que ça soit notre choix. Je veux dire, en quatre mots, on a réussi à capsuler un cri du cœur d'une majorité. Il y a 61% des gens à Victo, là, dans le comté d'Arthabasca, l'Érable. On a fait même un sondage scientifique là-dessus. Il y a 61% des gens, là, qui ne veulent pas se faire imposer une voiture électrique. Je veux dire, le mon char, mon choix, là, c'est le cri du cœur capsulé en quatre mots d'un sentiment qui anime une forte majorité du monde. Puis il y a 125 députés qui sont unanimes à l'Assemblée nationale contre ces gens-là.
Ouais, le débat est extrêmement important, puis il est très, très moderne, puis il est essentiel en ce moment, parce qu'il ne faudrait pas se diriger dans un mur non plus. Mais as-tu l'impression que la politique, des fois, on peut déplorer le côté spectacle, justement, avec ce qui a retenu l'attention d'Arthabasca, autant de ton côté que du côté d'Alex Boissonneau aussi?
Ben moi, je suis très content de la campagne qu'on a menée, honnêtement, parce qu'on est déjà à l'heure des bilans, là, on est à 72 heures de la fin de l'élection. Moi, je suis très content, on a mené une campagne très positive, beaucoup plus que nos adversaires, si vous regardez la couverture qu'il y a eu depuis le début. Puis l'autre affaire, c'est que, rappelez-vous, là, on a déclenché cette élection-là en pleine vacances d'été pour tout le monde. Le premier ministre, François Legault, l'a fait délibérément parce qu'il pensait qu'il y aurait moins d'attention puis qu'il y aurait moins de participation à cette élection-là. Je pense que c'est fourvoyé, puis la population va le faire mentir lundi soir. J'ai jamais vu une élection partielle qui a autant de couverture, puis dont on parle partout, puis dont le message risque d'être propagé aux quatre coins du Québec, bien au-delà des frontières de la circonscription d'Arthabasca-l'Érable lundi soir. Puis de toute participation, imaginez-vous que le bureau de vote par anticipation qui a eu lieu dimanche et lundi dernier, il y a eu 26% des gens qui ont déjà été votés. C'est un record. On n'a jamais vu ça, autant de monde qui se déplace pour aller voter par anticipation. Donc, je pense que c'est très bon signe. Les gens, là, ici, là, ils veulent envoyer un message de vrai changement. Je pense que c'est ce qui va expliquer la victoire du Parti conservateur, puis la mienne en particulier, lundi soir.
Là, il te reste quelques jours. Tu vas te concentrer sur quoi dans Arthabasca?
Bien, là, c'est la sortie de vote. Ce qui est important, là, c'est que les gens aillent voter. Il faut qu'il y ait un maximum de citoyens qui exercent son droit de vote. Moi, c'est que ça dans les prochaines heures, dans les prochains jours, là. C'est s'assurer d'aller porter des accroche-portes sur toutes les portes des gens pour qu'ils leur rappellent là où il faut qu'ils aillent voter, puis c'est quoi les heures d'ouverture puis de fermeture des bureaux de scrutin. On n'est plus vraiment à l'époque là, de convertir des gens. Là, il y en a peut-être encore quelques-uns, ou même de convaincre des indécis. Puis c'est encore indécis à 48 heures du vote. Normalement, tu votes pas, là. C'est les gens, je pense que le jello est pris en bon québécois, là. Il faut juste s'assurer que les gens se rendent aux urnes lundi. Puis c'est le message que je lance à tout le monde qui nous écoute, là, peu importe le parti pour lequel vous avez l'intention de voter, allez exercer votre droit démocratique lundi, c'est hyper important. Plus le pourcentage de participation va être important, plus le message risque d'être fort mardi matin.
Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, il te reste encore quelques jours, mais je te souhaite de passer une belle journée lundi, puis on se reparle peut-être la semaine prochaine.
Merci beaucoup tout le monde. Bon week-end. Bye.
Salut. Au revoir. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, qui est dans le comté d'Arthabasca. C'était un gros débat hier à LCN pour la plupart des chroniqueurs. Puis Québécois était fort là-dessus. Là. Le Parti québécois a mangé une méchante volée au débat. Est-ce que c'est en raison de la qualité de communicateur du gars qui se présente dans Arthabasca, je ne crois pas. Je pense qu'il a été mal briefé concernant certaines questions. Ça m'a beaucoup surpris, surtout ses réponses qui étaient un peu inadéquates là, pour ce type de débat-là. T'es supposé d'avoir des réponses aux questions qui sont quand même assez simplistes. Là. Visiblement, Alex Boissonneau a eu de la misère. Juste pour vous dire, parce qu'il faut que je sois très transparent avec vous autres, on était supposé avoir les deux aujourd'hui. On avait Éric Duhaime puis Alex Boissonneau. Et Alex Boissonneau a tout simplement...
Sont débordés, puis ça se peut qu'on ne soit pas choisi. On n'a pas été choisi, Yannick.
On n'a pas été choisi. C'est rare que le PQ me choisisit.
Non, je trouve que... Non. Des fois, c'est plus long, hein? Mais on est persévérant, on n'est pas harcelant.
C'est drôle, moi, il n'y a personne qui m'appelle pour me dire « Yann, je voudrais passer à ton émission. » Tandis que dans d'autres stations,
okay,
ça
raccroche,
arrive.
Raccroche.
Non, raccroche pas. Hey, dans l'actualité, on jase de quoi? On jase de Stéphane Huot. Stéphane Huot qui refait la manchette, Pascal.
Oui, l'homme d'affaires maintenant connu pour son manque en affaires. Le promoteur en faillite, en fait, c'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant. Il serait intéressé par des terrains dans Lotbinière. On dit qu'il travaille à titre de promoteur consultant pour des investisseurs intéressés à faire du développement résidentiel là-bas. On pensait qu'il était peut-être en mode « je vais me faire le plus discret possible », mais même endetté de 375 millions de dollars et en cours veut pas, ben là, il y a la main ou l'intérêt sur des terrains dans le Binière. Il veut y faire du développement résidentiel pour des investisseurs. Donc, il y a le maire de la petite municipalité de Sainte-Croix, ça c'est dans Chaudière-Appalaches, qui a confirmé avoir rencontré à deux reprises au moins au cours des derniers mois l'ancien dirigeant du défunt groupe UOT, qui s'informait sur la réglementation en vigueur à Sainte-Croix. C'est un dossier, en fait, sous la plume de Catherine Lamontagne qui suit tout ça avec fort intérêt et avec beaucoup de demandes d'entrevues et une enquête assez complète depuis le début sur le cas UOT. Il cumulait 1,2 milliard de dettes en septembre 2023 à la suite de la débâcle qui a été connue de son entreprise. Il n'entendrait pas renoncer à sa carrière de promoteur, de ce qu'on comprend.
J'ai une petite hypothèse là-dessus. Je suis pas à l'affût sur ce dossier-là, comme Catherine Lamontagne est à l'affût depuis le tout début. Mon hypothèse, c'est qu'il ne travaille pas pour des promoteurs et des consultants. Il n'y a personne qui veut se greffer à Stéphane Huot ces temps-ci en raison de la mauvaise réputation de Stéphane Huot actuellement. Puis c'est quelque chose que c'est très peu de gens savent, Pascal, mais si tu veux te recycler, je verrai pas pourquoi, parce que tu es une excellente animatrice de radio. Tout le monde t'adore. Je t'adore. Les boss t'adorent.
Pouvez-vous sortir ça, s'il vous plaît?
Si tu veux faire de l'argent énormément, l'immobilier, c'est une possibilité. En particulier, ce que je pense que Stéphane Huot fait.
Okay.
Stéphane Huot a flairé une belle affaire. Dans ce secteur-là, il y a une piste de course.
Oui, puis effectivement, il la convoite.
Les gens de cette piste de course-là et la ville s'entendent pas super bien. Et ce terrain-là est incroyable et c'est un terrain qui pourrait, avec certaines modifications, pouvoir accueillir du lotissement. Donc, de pouvoir mettre des terrains pour positionner des maisons dessus avec un quartier et tout ça, pour faire quelque chose de beau et tout ça. Puis ça, ben, faut que tu rencontres la ville, tu sais. Puis il y a eu une rencontre avec la ville, Stéphane Huot, avec le directeur général aussi de cette ville-là. Donc, tu es tout seul, Pascal, puis toi, tu peux le faire en passant. Pas juste Stéphane Huot qui peut faire ça. Tu es tout seul, tu vois qu'à quelque part, il y a une petite faille, il y a une chicane, puis possiblement que ce terrain-là, à un moment donné, il va être en vente. Bien, tu t'en vas voir le propriétaire de ce terrain-là. Tu dis bonjour, moi je m'appelle la belle Pascal.
Je m'appelle la même, moi.
Je convoite super. Ton terrain. Je sais qu'il n'est pas encore à vendre, mais si tu veux le vendre, moi je pourrais te donner un super de bon prix.
Comme quelqu'un qui voudrait une maison, par exemple, qui n'est pas à vendre, qui irait cogner, puis dit hey, moi ça m'intéresse,
c'est vendre un jeu. Okay. Fait que là, le gars de la piste de course a dit je ne suis pas à vendre, moi là. Et Stéphane Huot a dit, pas aurait dit, mais Stéphane Huot a dit si tu me vends pas, ben la ville va te fermer. Ce que la ville a dit, on n'a jamais dit ça, OK? Mais c'est ce qu'il a dit. Pourquoi il a fait ça? Pour mettre de la pression, pour vendre ce dit terrain-là, pour pouvoir acheter ce dit terrain-là. Fait qu'advenant le cas où le propriétaire de la piste de course dit, OK, c'est beau, mon beau Stéphane, je te vends ma piste de course, fais-moi un bon prix. Toi, tu as ton plan en tête, tu vas faire du lotissement, puis tu sais très bien que tu vas pouvoir faire un changement de zonage pour acheter ce terrain-là, pour faire du lotissement
dessus. Ça aurait été évalué avant.
Tout ça est évalué avant. Stéphane Huot, c'est un gars qui travaille là-dedans depuis des années et des années. Tu sais, c'est peut-être pas le gars à qui je te référerais pour acheter un terrain, mais c'est un gars qui est quand même extrêmement brillant. Quand tu as réussi à faire une faillite d'un milliard, c'est parce que tu étais capable.
Comme on disait, des fois, il y a une intelligence à bon et à mauvais escient.
Tu n'as pas de frais de bureau, tu n'as rien. Tu as ta voiture, tu t'en vas rencontrer le gars. Le gars, il dit « OK, c'est beau, je te vends ça, exemple, 3 millions de dollars. » Puis là, toi, tu regardes tes affaires, tu calcules tes affaires, tu dis « OK, 3 millions, c'est bon. » Fait que je te fais une promesse d'achat de 3 millions, même si moi, j'ai pas 3 millions dans mes poches. Là. Je te fais une promesse d'achat de 3 millions.
Pour faire une promesse d'achat, t'as pas besoin de prouver que tu peux le faire?
Des fois oui, des fois non.
Okay.
OK. Fait que je te fais une promesse d'achat de 3 millions, puis toi, qui vends le terrain, tu acceptes ma promesse d'achat. Fait que là, moi, j'ai ce terrain-là avec mes idées derrière. Qu'est-ce que je fais? Mettons qu'actuellement, je suis dans les problématiques. Là. J'ai des problèmes d'argent. Bien, je m'en vais voir quelqu'un qui, lui, en a de l'argent, qui fait de l'investissement immobilier, puis je lui vends cette promesse d'achat-là. J'ai le droit de vendre la promesse d'achat signée et acceptée que j'ai obtenue.
Là, tu m'apprends quelque chose.
J'ai le droit de le vendre à cette personne-là. Là, on parle pas de 500 $ de commission. Là.
Sans en parler au futur vendeur.
Sans en parler au futur vendeur. c'est une offre d'achat puis qui est acceptée, qui est valable en cours. Fait que je peux vendre ça, je sais pas, je dis ça, je dirais, je peux vendre ça 100 000, je peux vendre ça 200 000, je peux vendre ça 300 000.
Fait que ça coûte, mettons, 300 000 de plus au futur acheteur, soit au deuxième qui vient d'entrer dans le jeu acheteur. Mais il y a toutes les négociations qui ont été faites.
Toutes les négociations sont faites.
D'où l'avantage.
Il y a énormément de jeunes qui font ça actuellement dans le secteur de Montréal et ces jeunes-là se font de l'argent vraiment beaucoup.
Ouais.
Parce que pour un promoteur immobilier, ce qui est long, c'est le démarchage.
Mm-hmm.
Fait que quand t'as quelqu'un qui fait tout le démarchage à ta place, puis qui a le plan, puis qui a
l'endroit est trouvé, c'est négocié,
exact.
La personne veut le faire, tu arrives, t'achètes ce genre d'heures de travail-là, tu te casses pas la tête.
Exactement. T'as tout compris.
Particulier.
C'est particulier, mais c'est quelque chose qui se fait. À Montréal, il y a énormément de jeunes qui font ça. On parle de jeunes de 20-25 ans qui sont vite en affaires, puis qui démarchent, Puis une fois que c'est des promesses d'achat qui sont acceptées, est signé, pouf, ils vont vendre cette promesse d'achat-là
admettons,
à quelqu'un qui fait de l'immobilier.
80 heures de travail, admettons. Je ne sais pas, ça peut prendre combien. C'est quand même payant, là, si tu vends ça 20 000, 100 000.
Mais chum, que je n'aimerais pas, il dit, tu viens de décrire ma business de booking.
Ah, mais je pose une question, là. Quelqu'un du profil de Stéphane Huot, actuellement, dans l'actualité, les enquêtes, etc., la cour, viens cogner chez vous, t'as acheté ton lot, t'es pas un peu sur tes gardes?
Moi, je ne m'associerais pas actuellement avec Stéphane Huot.
Actuellement, j'aurais
c'est
bien
la raison
des doutes,
pour laquelle je te dis qu'il y a probablement personne en arrière de lui qui pourrait s'associer avec. Mais ce que je pense, c'est qu'une fois qu'il a sa promesse d'achat signée, là, il s'en va voir un autre promoteur immobilier. Puis là, il vend cette promesse d'achat-là. Puis lui, après ça, il s'en va travailler sur un autre dossier. Là.
Puis l'autre s'en fout carrément, s'entends-tu? Là,
le démarchage est fait.
C'est ça, je veux dire, après, l'autre est sorti, Huot est sorti.
Exact.
Donc. Ah ouais, OK, donc ça serait ton hypothèse.
C'est une hypothèse, mais je suis pas mal persuadé à 100% que c'est ce qu'il fait actuellement.
OK.
C'est brillant, mais c'est pas tout le monde qui veut le faire.
Dérangeant un peu.
Puis lui, visiblement, semble vouloir le faire. Midi 55, vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Pascal, j'ai des cadeaux pour toi.
Est-ce que tu as les capitales pour nos auditeurs?
J'ai des capitales pour
yes!
toi et les auditeurs. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour Pascal aujourd'hui?
Ah non, s'il vous plaît, pas une autre affaire d'acrostiche. Hein?
Donnez une qualité à Pascal, tiens. Venez vivre l'expérience des capitales de Québec avec Boulevard 102.1. Ça va
pas
être
besoin d'amour, Marceau.
Ça va être au stade Canac. Je sens que t'as besoin d'amour, Pascal. Je sais pas si t'en as eu hier soir.
Je sais pas.
OK. Le 26 août prochain, les capitales de Québec vont être en action pour la soirée Boulevard à compter 19h. Et en tant que partenaire, bon, on va être sur place et l'escouade Boulevard aussi sera sur place. On va vous donner des jeux, des cadeaux, tout ça pendant le match et avant, bien entendu. On a aussi des billets pour toute la semaine. On va faire ça par texto au 418-971-1021, 418-971-1021 pour gagner accès. Deux accès dans la zone Kepler qui comprend... Trois consommations, pop-corn et billets pour le match. Donc, viens encourager l'équipe locale contre les Miners de Sussex et vivre l'ambiance festive du stade municipal de Québec. C'est deux billets pour la zone Kepler avec trois consommations et pop-corn. 418-971-1021, 418-971-1021. Écrivez une belle qualité à Pascal et peut-être que c'est vous qui allez gagner ces billets-là.
Peut-être que pour un prochain concours, on pourrait remplir la boîte vocale de nos boss.
Denis, celle de Denis.
Oh, il prend jamais ses messages, ce serait pas bon. Puis on ne donnera pas son numéro personnel.
Non, c'est vrai, on ne peut pas faire ça.
Mais tu sais, une boîte vocale d'entreprise. Là.
Max, on pourrait faire ça avec Max.
On donnerait son cellulaire, lui.
Exact.
Il serait bien content. Il y aurait des prospects.
Il pourrait répondre au téléphone. OK, on attend vos textos.
Boulevard 102.1.